marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Vous pouvez télégraphier au monde qu'il n'y a plus une âme vivante à Saint-Pierre.
...1902, la catastrophe de Saint-Pierre.
La nuée ardente donc va descendre les flancs de la montagne Pelée et va s'abattre sur la ville.
Il y a des témoins en fait de l'éruption, en particulier les marins qui sont dans la rade. Et ils décrivent d'abord une explosion, donc avec un bruit assourdissant, un phénomène de pression, dépression brutale qui fait mal aux oreilles. Une vague de chaleur, une pluie de boue chaude qui s'abat sur la ville et surtout la ville qui s'embrase en fait instantanément puisque les bateaux au mouillage sont déjà coulés soit par l'onde de choc directement ou sinon ils prennent feu et on sait que la température de combustion spontanée c'est 450 degrés. Donc ça donne la température basse et le phénomène s'abat sur la ville en moins d'une minute.
La montagne Pelée, avec ses 1243 mètres qui surplombaient la rade de Saint-Pierre, ne s'était pas manifestée depuis un demi-siècle. On avait pris l'habitude de la regarder un peu comme l'aïeul qui, de temps en temps, émettait de la fumée en tirant sur sa pipe. Mais depuis la fin d'avril 1902, son état avait commencé à susciter de l'inquiétude. Elle était de nouveau en éruption. Éruption d'un type connu, maîtrisé, voulait-on croire. Éruption magmatique, en réalité. Le 8 mai, donc, une muraille de feu s'avance brusquement sur la ville. Il est tôt le matin à Fort-de-France, le chef-lieu de l'île. À Fort-de-France, on n'est jamais très sûr de l'heure, enfin autour de 8 heures. L'employé du téléphone parle dans son cornet avec son collègue de Saint-Pierre. Et soudain, celui-ci pousse un cri. Il a succombé à une suffocation immédiate. On ne saura jamais à quelle chaleur a atteint la nuée de feu. 450 degrés, c'était le minimum, vient de nous dire Jeanne Casassu. C'est une température cependant inférieure à 1050, puisque les fils de cuivre du téléphone ont tenu, ils sont bien les seuls. Saint-Pierre, 26 000 habitants, était jusqu'à cet instant la ville la plus importante de l'île.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1878, Victor Mignan, voyageur et écrivain français, auteur de l'ouvrage « Les Antilles ».
Cette ville sert d'entrepôt à tout le commerce de sucre qui se fait dans l'île. Même les propriétaires de la Côte du Vent envoient leurs produits à Saint-Pierre pour y être vendus.
...1901, Marc Larcher, instituteur, auteur d'un ouvrage pour la jeunesse intitulé « À travers la Martinique » ou les vacances de Gérard.
La rade était sillonnée d'embarcations. Les unes venaient débarquer sur la plage, du Campeche, des bois à brûler, du charbon, des sacs gorgés de fruits et de légumes provenant des campagnes de l'île. D'autres transportaient sur les caboteurs les provisions achetées dans les magasins de la ville et destinées à alimenter les communes. Sur les gros navires, reliés au rivage par un câble et maintenus immobiles au mouillage, des matelots faisaient manœuvrer une grue qui soulevait de lourds fardeaux apportés de la terre par des gabarres.
Et à la fin du 19e siècle, l'économie sucrière est en crise. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques de cette société, pas seulement urbaine, mais de manière générale. C'est que c'est une société qui est extrêmement réactive. Le sucre ne fonctionne plus, c'est pas un problème. On va se tourner vers le rhum. Et Saint-Pierre, à la fin du 19e siècle, devient une ville aussi industrielle et ouvrière, avec donc d'une part un nombre important de distilleries qui ouvrent aux marges de la ville. Et dans le cadre de la modernisation des processus de fabrication du sucre, dont l'idée évidemment toujours de générer plus de profits, ça correspond à l'ouverture des usines centrales, et dont l'usine Guérin, qui est la seule usine centrale sur le territoire de Saint-Pierre. Et c'est une ville portuaire, c'est une ville importante, donc comme dans toutes les villes de cette époque, il y a un théâtre, évidemment. Il accueille aussi les nouveaux beauté. On est très friand de ça et très réactif. Les premières séances de cinéma, les premières démonstrations de télégraphe. Mais quand on parle de ville, des plaisirs, de la débauche, etc., bon, bah oui, évidemment, il y a aussi, comme dans tous les ports, des lieux où, voilà, où on peut faire la fête. Mais voilà, pour le reste, c'est peut-être d'abord une ville normale.
On l'a bien entendu, ce n'est ni Sodome, ni Pompéi, comme la légende après l'éruption a voulu parfois le faire croire. Les sons que vous allez entendre au long de cette émission sont soit tirés d'un documentaire, L'explosion de la montagne Pelée, Olivier Dehaz et Denis Chégaraille, ou des reportages que vient de faire à Saint-Pierre Franck Olivard, notamment auprès de Jeanne Cazassu et de Marie Hardy, qui ont joué un rôle important dans la rénovation d'un musée qui s'appelle le musée Frank A. Perrest, un vulcanologue américain qui a fait beaucoup pour la Martinique, musée au centre duquel est maintenant dressé un mémorial des victimes. Que ce soit dit, et puis ça peut être lu et vu par vous, vous cherchez le lien sur notre site, aux pages qu'a composées sur le sujet, Franck Olivard. Donc Saint-Pierre, ce n'est pas une ville inconsciente, elle craint les tremblements de terre d'ailleurs, elle entend les avertissements si un cyclone menace, mais c'est aussi une ville bruissante de curiosité et la montagne Pelée, motif d'excursion avec ses 1243 mètres au-dessus de la rade, suscite la curiosité plus qu'autre chose. Les dernières éruptions sont anciennes, 1792, 1851. Si on veut aller au fond, il faut bien reconnaître que les plus jeunes aimeraient secrètement connaître la même expérience que leurs aînés et voir à leur tour la montagne gronder.
Quand nous entendions parler de l'éruption de 1851, nous eussions voulu y être. Nous n'espérions jamais voir un événement de ce genre. Aussi, quelle n'a pas été notre surprise quand on vint nous dire que la montagne Pelée fumait. Nous prîmes tout d'abord la chose pour un poisson d'avril. Nous garderons cette cendre vomie par la gueule de notre volcan comme une relique. Cette cendre est pour nous un poème.
Le 27 avril, une équipe d'excursionnistes se rend à la montagne Pelée pour essayer de voir par où s'échappent les colonnes de fumée apparues ces derniers jours. Le récit de leurs observations dans le journal local Les Colonies.
Quand nous nous trouvâmes au sommet de la Pelée, nous fûmes littéralement éblouis de surprise. Que l'on se représente une cuvette gigantesque, mesurant approximativement 800 mètres. Le lac sur lequel flottait de la cendre noire balayée par un vent intense présentait l'aspect d'une mer de plomb fondu ou de vif argent. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pu approcher du cratère.
Ont-ils voté, ceux qui sont allés faire cette excursion? 2000 citoyens sur 6000 inscrits participent au premier tour des élections législatives. Parce que ce 27 avril 1902, ce sont aussi les élections. Alors on devine que dans une île où l'abolition de l'esclavage ne date que d'un demi-siècle, les fractures sociales et politiques sont ouvertes. Les béquets, propriétaires des plantations, et les personnels et les familles des administrateurs forment le groupe des Blancs, qui n'est pas nécessairement homogène, non plus que ne l'est celui des mulâtres. Chacun a ses cercles de réunion, ses habitudes de comportement. Quant aux nègres, comme on continue à le dire, ils constituent le groupe le plus nombreux, ils sont peut-être 15 000 dans la ville. Les législatives se font largement sans eux. Pourtant, le gouverneur, il est nommé depuis 1901, Moutet, n'a pas ménagé ses efforts. Il a même envoyé l'évêque en métropole sous prétexte de convalescence. Le milieu ecclésiastique entre facilement en effervescence dans l'île et Moutet craignait sans doute son influence sur le scrutin. Ce n'est cependant pas son favori qui arrive en tête au premier tour, mais le candidat conservateur, un béquet, Fernand Clair. On voit mal ce qui pourrait empêcher son élection. Néanmoins, on ne compte pas les rumeurs qui se sont multipliées après l'éruption. Les élections auraient trop mobilisé les esprits, a-t-on dit. Enfin, elles semblaient, on vient de le voir, jouer avec beaucoup d'abstentionnistes. De toute façon, les jours qui suivent, l'attention se tourne vraiment, totalement, vers la montagne Pelée.
Le 3 mai au matin. Dans l'après-midi, Mon mari me proposa une promenade à cheval jusqu'à la rivière Blanche. J'avais très peur, mais j'acceptais quand même. D'abord, nos deux chevaux donnèrent quelques signes d'inquiétude. Leurs sabots s'enfonçaient dans la cendre. La mer, grise et terne, ajoutait une note lugubre à ce paysage de désolation. Pas un oiseau dans les arbres. Partout un silence de mort. Le résultat de cette promenade fut de me terrifier complètement. La résolution de quitter Grande Case fut prise aussitôt. En costume d'intérieur, des rubans de mousseline protégeant nos yeux, des serviettes mouillées devant notre bouche. Voilà comment nous nous sommes enfuis de chez nous.
Le 5 mai 1902, témoignage du docteur Auguste Guérin, propriétaire de l'usine Guérin.
Je voulais immédiatement emmener ma famille et le personnel de l'usine. Je fis mettre mon yacht sous pression dans le port de l'usine. À midi 10, j'entends des cris. On donnait l'alarme. Des gens clamaient effrayés. La montagne descend. Et j'entends un bruit que je ne peux comparer à rien. Un bruit immense. Quoi ? Le diable sur la terre. Et je sors. Je regarde la montagne. Il en descendait sous des fumées blanches en fracas, une avalanche de matière noire, une masse énorme de plus de 10 mètres de hauteur et large d'au moins 150 mètres. Cette masse, sortant du lit de la rivière Blanche, roulait contre l'usine. Toute ma vie est dans mes yeux. Mon infortuné fils et sa malheureuse femme courent vers le rivage. Je les vois disparaître derrière l'usine. Aussitôt arrive la boue. C'est un craquement. Tout est broyé, noyé, submergé. Mon fils, sa femme, 30 personnes.
Télégramme envoyé le 7 mai 1902 en Martinique.
Commandant brigade Basse-Pointe à chef escadron Fort-de-France. Depuis 11h matin, la rivière Basse-Pointe qui traverse le bourg a eu 5 crues très fortes, de boue excessivement épaisse et noirâtre, entraînant énormes pierres et quantité bois. La dernière survenue à 4h, soir, a menacé le pont et quelques maisons riveraines. Les habitants affolés quittent les immeubles. Toutes les autorités sur les lieux surveillent les points menacés. Maire Ajoupa Bouillon, un gouverneur. Situation commune bien triste. Dégâts considérables. Habitations et arbres fruitiers presque détruits. Couche de cendre de 8 cm, étendue sur tout parcours. Savane complètement couverte. Animaux périssent. Puis rivière falaise a laissé lit naturel et emporté plusieurs milliers cacaoyers et légumes. Reçoit plainte des pères de famille. Ne sait quoi faire pour soulager misère pressante.
Nous sommes encore ici, là, à quelques kilomètres de Saint-Pierre. Et la ville elle-même. Le gouverneur Moutet a choisi de payer de sa personne. Il a quitté Fort-de-France pour Saint-Pierre. Il est venu avec sa femme, dans l'intention de rassurer. D'ailleurs, s'il pensait à une évacuation, comment l'organiserait-il ? La route coloniale entre les deux villes principales de l'île n'est qu'une piste améliorée. Il faudrait employer des bateaux, mais comment les rassembler en nombre suffisant ? Qui plus est, l'éruption n'a pas encore évolué du stade phréatique au magmatique, pour reprendre le vocabulaire d'aujourd'hui. Mais en 1902, on n'en sait pas aussi long sur la vie des volcans qu'aujourd'hui. Le gouverneur, donc, compose à la hâte, le 7 mai, une commission, dite scientifique, présidée par le directeur local de l'artillerie, et composée d'un pharmacien-major, d'un sous-ingénieur des ponts et chaussées, et de deux professeurs de sciences naturelles du lycée. L'un d'eux, d'ailleurs, avait averti ses élèves en classe d'un danger imminent.
À 10h du matin, ce 7 mai, le gouverneur nomme une commission chargée d'étudier les caractères de l'éruption volcanique de la montagne Pelée. Elle est composée de deux officiers, d'un ingénieur des ponts et chaussées et de deux professeurs de sciences naturelles du lycée de Saint-Pierre. Le gouverneur aurait demandé à cette commission de faire son travail scientifique, mais aussi de ne pas affoler inutilement la population.
Communiqué de la commission scientifique pour diffusion le 8 mai 1902.
La commission chargée d'étudier les phénomènes volcaniques de la montagne Pelée s'est réunie hier soir, 7 mai, à Saint-Pierre, à l'hôtel de l'intendance, sous la présidence de Monsieur le gouverneur. Après examen des faits constatés successivement depuis le commencement de l'éruption, la commission a reconnu,
Premièrement, que tous les phénomènes qui se sont produits jusqu'à ce jour n'ont rien d'anormal et qu'ils sont au contraire identiques aux phénomènes observés dans tous les autres volcans.
Travail complètement arrêté. Bordement Fancoré, menace Saint-Pierre. Arrive ce soir.
Maire de Trinité à gouverneur Fort-de-France.
À lui, population de Trinité inquiète sur suspens jusqu'à nous rester trois
jours. Cinquièmement, que la position relative des cratères et des vallées débouchant vers la mer permet d'affirmer que la sécurité de Saint-Pierre reste entière. La commission continuera à suivre attentivement tous les phénomènes ultérieurs et elle tiendra la population au courant des moindres faits observés.
Marius Hurard, directeur fondateur et rédacteur du journal Les Colonies, organe républicain de la Martinique, 7 mai 1902.
Nous avouons ne rien comprendre à cette panique. Où peut-on être mieux qu'à Saint-Pierre ?
Marius Virard n'entendra pas les reproches qu'on lui fera plus tard. Il mourra comme les autres, comme le gouverneur, comme sa femme, comme la quasi-totalité des habitants. Dans la rade, un seul bateau parvient à s'échapper ce 8 mai. Il gagne le large, dans l'obscurité devenue totale, et sur une mer littéralement bouillante. C'est le vapeur Rodham, commandant Freeman.
Il fallait avant tout tenter la fuite, mais il n'était pas facile de rassembler l'équipage. Ne put m'arriver à briser la chaîne de l'ancre. Mais la manœuvre était extrêmement difficile. Les flammes gagnaient à chaque instant, les vagues secouaient le navire. Nous naviguâmes pendant 5 heures. Enfin, nous atteignîmes Port Castri. Notre bateau était méconnaissable. C'était un bateau fantôme. L'agent ne me reconnut qu'à ma voix. Nous apportions à Sainte-Lucie la première nouvelle du désastre. « Nous venons des portes de l'enfer, » dis-je. « Vous pouvez télégraphier au monde qu'il n'y a plus une âme vivante à Saint-Pierre. »
En ville, un nom de survivant a survécu. C'est Siparis, un solide gaillard d'une trentaine d'années qu'un menu larcin avait envoyé en prison pour un mois. Il avait ensuite joué de malchance, apparemment. Une rébellion sans gravité l'avait conduit au cachot. Et le cachot fut son salut. Nous voici d'ailleurs in situ, dans l'ancienne maison d'arrêt en ruine aux captifs la libération.
La maison d'arrêt, c'est tout cet ensemble, toutes ces ruines. On a un couloir central qui distribue les différents espaces. À gauche, 4-5 cellules. Et à l'arrière, une autre cour dans laquelle prend place le cachot, enfin l'un des cachots, parce qu'en réalité, il y en a plusieurs. Mais c'est dans ce cachot-là, en tout cas, c'est ce que la mémoire collective a retenu, qu'aurait été enfermé Siparis.
Il a raconté au père Marie comment il avait survécu.
Il était 8 heures quand tout à coup, un bruit épouvantable se fit entendre. Tout le monde criait « Au secours, je brûle, je meurs !» Au bout de 5 minutes, personne ne criait plus, excepté moi. Lorsqu'une fumée se précipita avec violence par la petite fenêtre de ma porte, cette fumée brûlait tellement que pendant un quart d'heure, je sautais à droite, à gauche, en l'air, tout partout pour l'éviter.
C'est seulement au bout de 4 jours, de 3 nuits, que Siparis sera découvert. Très vite, le cirque Barnum, qui fait assaut de récits sensationnels, l'engagera pour raconter au public son aventure. Et tout récemment, Grégory Privat a consacré un disque au malheureux qui était devenu phénomène de foire et qu'il restera jusqu'en 1929. Voilà ce qu'il dit, Siparis. Messieurs et dames, bien bonjour. Je suis payé pour faire macaque, alors je ferai macaque pour vous plaire.
Si mesdames m'ont dit bien bonjour, messieurs et dames. Je capé, moi, pour faire macaque, chez Marie, c'est pour lapider, moi, que ça fait macaque, bazote. Pas Siparis, c'est non macaque, moi, mais non moi-même, c'est Tissonson. Disons son négateur Saint-Pierre sorti des pieds en fond boubois, j'y quand la source la roque c'est l'âne. Disons son tunec débouillard, disons son tunec bord de l'enmer, tunec trivaillé, la rue d'orange, la rue abîme, la rue monte au ciel, la rue précipice. C'est bien, disons son yoka, criez moi, on fait tout ça, t'es là pour faire. On fait pêcher, bien vivre le thème, on fait jouer, on fait quoi, bien la bourritier. On dit travail, on connaît métier. La vie a besoin, on parle en mobilité.
La vie.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
La catastrophe de 1902 à Saint-Pierre à l'occasion de la réouverture du musée Franck à Perret dans la ville, réouverture assortie de la présentation d'un mémorial des morts de la catastrophe. Nous sommes dans les jours qui l'ont suivi, des récits récurrents accablent les pillards, les frères de la Guadeloupe et de la Guyane, eux, envoient vite ce qu'ils peuvent. Les Américains sont très efficaces aussi dans les premiers temps, au point que les autorités françaises en sont piquées. Les deux chambres à Paris votent à l'unanimité un crédit extraordinaire et des souscriptions publiques se multiplient. La polémique étant inhérente à la catastrophe, il sera répété que les fonds étaient parfois mal utilisés. En tout cas, il est décidé qu'ils ne peuvent être destinés à la reconstruction de Saint-Pierre. La destinée de la ville, c'est de devenir un musée de ruines, Anne Casassu. Jeanne Casassu sur l'un des sites préservés les plus étonnants.
L'église du Fort, à mon avis, c'est l'endroit où on a la vision la plus parfaite aujourd'hui de la puissance de l'éruption volcanique.
Là, on est au milieu de la rue sur laquelle est projetée une partie de la façade qui doit bien faire 2,50 m d'épaisseur et qui a été jetée, propulsée comme ça au milieu de la rue. On va monter et là, on marche sur les cendres de l'éruption qui sont toujours là, évidemment. Nous arrivons sur le parvis. Devant nous, une autre partie de cette même façade et les colonnes complètement disloquées. Le 8 mai, c'est un jour particulier. C'est le jour de la... C'est un jeudi de l'Ascension, hein, en 1902. Hein. Et c'est cruel, mais beaucoup d'habitants sont revenus à Saint-Pierre ce jour-là, certains qui avaient quitté la ville, pour justement se rendre à l'église. C'est le jour des premières communions. Hein. Et donc, cette église, comme les autres, était pleine. Et puis, progressivement, en fait, c'est un lieu qui s'est désacralisé. C'est aussi lié à l'installation de nouveaux habitants aux alentours. Moi, j'ai souvent vu des super parties de football au milieu de la nef. À certains moments, il y a la chapelle qui sert d'atelier mécanique. Je ne voulais pas montrer en passant, mais il y a un des tambours d'une colonne qui est gravé avec un damier. On peut venir jouer en fin d'après-midi, assis sur des caisses de Lorraine renversées. Et voilà, c'est ça aussi. C'est aussi intéressant de voir cette vie qui reprend, même de manière un peu improbable. Mais c'est ce qui fait partie de la poésie de ce lieu. Hein.
Jeu dans les ruines, comme il dit, dont se souvient Mathurin Cadoret, qui appartient à une famille qui s'est installée là dès 1910, à l'instant précis où la ville était retirée de la liste officielle des communes de France.
Quand on était à l'école, on allait jouer dans les ruines avant d'aller à l'école. Pendant les vacances, on allait jouer dans les ruines. On a l'intention de trouver beaucoup de petites choses qu'on ne savait pas qu'il y avait beaucoup de valeur, comme le petit match que j'ai montré à la dame tout à l'heure. Là. Ça représente une petite poupée de porcelaine. Et en réalité, ils appellent ça des biscuits. Il lui manque la tête, il lui manque les bras, et un peu les jambes. Ça s'appelle des biscuits. Ce sont des poupées de porcelaine non émaillées qu'on trouvait beaucoup. Et il y avait un orphelinat à Saint-Pierre où on trouvait les petites poupées joufflues. J'ai vu une petite là, joufflue, qui était des porcelaines. Et pendant que ma grande sœur, j'ai une sœur qui est plus âgée que moi, elle jouait avec cette poupée-là, ces poupées-là, des poupées qu'on trouvait dans les ruines, en intact des fois.
Celle-ci, vous l'avez trouvée où?
Dans la mer, près de chez moi. Le ressac, quand la mer remue, il y a des épaves. Par contre, j'ai plein d'objets anciens que j'ai trouvé dans les ruines, par exemple des objets de pharmacie, des objets de la vie usuelle, des casseroles. Ah ouais, dans la mer, beaucoup de daubanes, de fameux daubanes. Ce sont des poteries qui viennent de la ville d'Aubagne. J'ai trouvé dans la cendre, des petites qui étaient intactes, mais on voyait que dans la, les cheveux, si vous voulez, c'était pas des cheveux, c'était peint, on voyait que ça avait un petit peu jauni par rapport à la chaleur. Parce que lorsqu'on passe dans des terrains, et puis surtout lorsqu'il pleut, on trouve des bouteilles, des bouts verts irisés, qui a des couleurs de l'arc-en-ciel, si vous voulez, on sait que ça a été brûlé par l'éruption de la montagne Pelée. Parce qu'on trouvait beaucoup de verre tordu par la chaleur de l'éruption. On trouvait des concrétions, par exemple, de, j'ai à la maison aussi des concrétions de peu de tout, des amalgames de, qui ont fondu, se sont rassemblés ensemble. Au bord de mer, par exemple, quand la mer est très forte, c'est très joli à voir, il y a des concrétions de feuillards de barrique, il y a des chaînes d'encre, et on s'amusait à chercher de l'or lorsqu'on était enfant.
Poésie des traces, effacement des polémiques, et puis demeurent les questions sur l'identification des morts qui ne sont pas faciles à résoudre. L'état civil a disparu et il a été transféré un moment dans la commune voisine du Carbet avant que Saint-Pierre ne redevienne elle-même commune en 1923. En partant des jugements déclaratifs de décès conservés, aussi des fonds des archives d'Outre-mer à Aix-en-Provence, l'association martiniquaise de rechercheurs sur l'histoire des familles fonde son travail qu'explique ici Alex Bourdon.
Il y a des ressortissants de plusieurs pays, italiens, russes même, libanais, chinois, des personnes venant de la Caraïbe. Mais c'est vrai que le gros des victimes venait de la Martinique et de Saint-Pierre en particulier, à 80%. Sur le nombre de victimes, jusqu'à présent, on n'en sait rien. Le nombre de victimes est évalué à la louche en 1902, par Eugène Lacroix, géologue, géographe, et il a procédé à partir de la population de Saint-Pierre, dont le dernier recensement remontait à 1901. Mais il a été dit par la suite que ce recensement a surévalué le nombre d'habitants de Saint-Pierre pour pouvoir percevoir une part plus importante de l'octroi de mer. Par ailleurs, on pensait que pratiquement tous les habitants de Saint-Pierre étaient morts lors de l'éruption. Or, dans les fonds d'archives, on s'aperçoit que plusieurs centaines ont pu quitter Saint-Pierre, voire même la Martinique, parce qu'il y a eu une exode importante des Martiniquais après 1902. Donc, combien y en a-t-il exactement? On ne peut pas le dire.
C'est ainsi qu'on arrive quand même au chiffre de 7045 identifiés. Ils sont inscrits dans le mémorial qui vient d'être installé, je l'ai dit, au centre du musée Franck A. Perret. Le musée Franck A. Perret, il a pris la relève en 1933 d'un observatoire qui avait été créé par Lacroix, dont le nom vient d'être cité. Il était dans un état qui méritait restauration. C'est fait, vous pouvez le visiter. Vous pouvez aussi faire une visite virtuelle grâce aux textes, aux photos, aux enregistrements de Franck Olivard que vous retrouverez par un lien. Un lieu, une histoire, c'est le titre, sur notre site. Cette émission a été réalisée par Audrey Ripouille avec Philippe Duclos à la technique.